Radio Okapi. Journal présenté par Daniel Tambinzoni.
Les titres de votre édition du journal sur Radio Okapi. Plus de 13 000 enfants élèves de Bakwankenge au Kasai Central risquent de rater l'année scolaire 2020-2021. Plusieurs bâtiments scolaires sont détruits et ceux qui résistent encore manquent de tout. Le coordonnateur de l'ONG ENAV qui revient de la région alerte les autorités provinciales et les partenaires. La rentrée judiciaire en République démocratique du Congo, c'était hier jeudi 15 octobre. Le premier président de la Cour de cassation a saisi l'occasion pour marteler sur la nécessité de renforcer, de réformer le régime des privilèges des juridictions et des immunités de poursuite. À ses yeux, les bénéficiaires jouissent de l'impunité. La chefferie de Ouattadinga, territoire de Beni dans le Nord Kivu, connaît une petite accalmie sécuritaire malgré quelques incidents isolés. C'est le président de la société civile de la chefferie qui le dit. David de Mouazé est l'invité de ce journal. Il plaide pour le renforcement des patrouilles des forces de sécurité dans la région. Voilà pour les titres. Plusieurs centaines d'enfants risquent de rater l'année scolaire en cours à Bakwankenge et ses environs. Le coordonnateur de l'ONG ENAV l'a dit mercredi à son retour d'une mission d'évaluation dans ce coin de l'espace Kasaï. Maître Pierre Bibombé indique également que plusieurs écoles sont détruites et d'autres qui résistent manquent de tout. Il appelle les autorités provinciales ainsi que les partenaires à voler au secours de ces établissements scolaires pour faciliter l'instruction des enfants de Bakwankenge. Maître Pierre Bibombé au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La situation humanitaire est vraiment préoccupante, spécifiquement pour les enfants. Il y a eu mouvement de population, on a trouvé des familles déplacées, il y a eu même des familles retournées qui ont été pillées pendant ces affrontements. Ces familles n'ont pas les moyens pour faire rentrer les enfants à l'école. Il y a même des écoles qui ont été pillées, qui ne sont plus en mesure d'accueillir les enfants. Il y en a qui n'ont même pas de manuel didactique, il n'y a pas de banc. Nous estimons à près de 13 000 enfants risquent de rater cette année scolaire à cause des conflits qui ont vraiment endeuillé les communautés de Bakwankenge, Benimilombe. S'il y a des partenaires potentiels qui peuvent déjà se positionner dans ces zones, ça serait une bonne chose pour réhabiliter ces écoles, appuyer aussi les élèves en kit scolaire. Ça serait vraiment sauver l'avenir de ces communautés-là.
Et sachez que cette situation est consécutive aux accrochages du mois d'août dernier entre les populations du groupement Bolempo en territoire de Mweka et celle de Benimilombe à Demba. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu menace de fermer tout établissement scolaire qui ne respecte pas les mesures barrières pour lutter contre le COVID-19 dans les milieux scolaires. Le ministère provincial de la Santé dit détenir un rapport sur le non-respect des mesures barrières dans certaines écoles de Bukavu depuis la reprise des cours lundi dernier. Il demande aux gestionnaires scolaires de se référer au protocole d'accord signé entre le secteur de la santé et le secteur éducatif. Pour cette fin, Cosmos Kusimwa Bishisha, c'est lui le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu, il est au micro de Jean Kassami.
Oui, il existe un protocole signé entre le secteur de la santé et le secteur éducatif. Et dans ce protocole, chaque chef d'établissement a pris certains engagements concernant le secteur de la santé. Le rapport à ma possession renseigne que ces mesures ne sont pas respectées dans les différentes écoles et il faut dire que dans ce protocole, il est indiqué que les écoles qui ne respectent pas les mesures ou le contenu de ce protocole, le ministère de la Santé se réserve le droit de fermer l'école. C'est vrai que ce lundi, nos équipes vont déployer dans toute la ville pour contrôler les différentes écoles et donner ce conseil.
La journée internationale de la canne blanche était célébrée comme toutes les autres années hier jeudi 15 octobre à Goma. Aucune manifestation commémorant cette journée dédiée aux personnes malvoyantes ou aveugles n'a été organisée. Toutefois, l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques en a profité pour passer des messages de sensibilisation. Le porte-parole de l'association plaide en faveur de la promotion par le gouvernement congolais de l'éducation scolaire des aveugles en RDC. Ombeni Ngango le dit au micro de Bernard Denyangi.
Pour ce qui concerne les autorités nationales, je voudrais qu'ils considèrent les aveugles comme les autres. Car si vous voyez, les aveugles ont le même droit que les autres. Et nous sommes en train de voir comment le président de la République se démène par-ci, par-là, pour voir comment il y aura la gratuité de l'enseignement pour tous. Mais il semble que les aveugles sont parmi les défavorisés, parce que dans cette province, par exemple, voir un aveugle qui a étudié, c'est rare. Raison pour laquelle nous avons voulu interpeller les autorités provinciales, nationales, voire même internationales, pour qu'ils se rappellent que même notre province du Nord qui à des aveugles qui auraient voulu étudier, mais peut-être qui n'ont pas de moyens. Les peu d'aveugles qui étudient, c'est aussi parce qu'il y a des associations qui leur prennent en charge, alors que l'aveugle aussi peut avoir aussi des postes, même des responsabilités dans ce pays, si et seulement s'il est bien encadré.
Sachez que la journée mondiale de la canne blanche a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles. Elle tire son appellation de la référence au bâton blanc qui aide les personnes malvoyantes de vivre, se promener et de travailler de manière indépendante. Deux ministres du gouvernement Ilunga Ilukamba attendus dans les 8 prochains jours à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la ministre des Affaires étrangères Marie Toumba Nzeza et celui de la décentralisation Azarias Rouberoy. Ceci ressort de la plénière à huis clos d'hier jeudi à la Chambre basse. Les députés ont débattu hors caméra et micro de l'opportunité de l'interpellation du Premier ministre ainsi que de deux autres ministres. Après débat, la demande de l'interpellation du Premier ministre par le député Jackson Aoussé a été rejeté. Seuls les ministres des Affaires étrangères et de la décentralisation pourront se présenter la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Le premier président de la Cour de cassation soulève la nécessité de réformer le régime des privilèges de juridiction et des immunités de poursuite. Pour lui, les bénéficiaires jouissent de l'impunité. Il a donné de la voix au cours de l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation hier jeudi ici à Kinshasa. C'était devant le premier ministre, représentant personnel du président de la République, mais les présidents des deux chambres du Parlement étaient absents. Le procureur général près la Cour de cassation a, dans sa mercuriale, parlé de l'injonction du ministère de la Justice au ministère public, tandis que le bâtonnier national et président du Conseil de l'Ordre national des avocats a récapitulé sur ses différentes plaidoiries depuis 1999 en insistant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la paix en RDC. Reportage de Jeff Ngoy.
Pour le bâtonnier national Matadi Wamba, on entend tirer à boulet rouge sur les magistrats. Désormais, il faut améliorer leurs conditions de vie qui riment avec leur indépendance et la paix dans le pays.
On a toujours tiré à boulet rouge sur la magistrature, ai-je dit à l'époque. Il fallait désormais, ai-je dit, tirer le magistrat de la situation qui est la sienne depuis des années, sans bureau et sans salaire décent.
Dans sa mercuriale, le procureur général Victor Mumba explicite les notions du pouvoir d'injonction qui doit être positive sans amoindrir l'action des ministères publics.
Cette injonction est motivée et mentionne le ou les moyens le procureur général peut, s'il échoue, invoquer à l'appui de son réquisitoire.
Le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, enfonce le clou. Il fustige ceux qui se cachent derrière leurs immunités et privilèges qu'il sied de revoir.
Les immunités de poursuite et les privilèges de juridiction présentent des effets néfastes. Nous pensons qu'il faut absolument réformer leurs règles, car nul n'a de droit acquis au statu quo, et l'idée d'une réforme ne fait outrage qu'à ceux qui ne supporteraient pas d'être privé d'un droit contestable.
Ce haut magistrat dénonce donc les effets pervers de ces immunités qui ne devront plus se limiter qu'aux opinions émises pendant l'exercice des fonctions parlementaires.
Jeff Ngoy sur Radio Capi. Reprise depuis mercredi des audiences de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu dans l'affaire de l'incendie des bureaux de la mairie et de la MONUSCO Beni. 18 personnes sont mises en cause, notamment 12 agents de la police nationale et 6 officiers poursuivis pour des infractions d'abandon de poste lors des opérations, violation des consignes et pillage. André Kitenge nous en fait le point.
Dans leur défense, les policiers à la barre ont rejeté tous les chefs d'accusation d'abandon de poste, violation des consignes et pillage. Pour eux, c'est le commandant en place qui a donné l'ordre de dégarnir leur position où ils étaient déployés. Et mis en cause aussi, l'ancien commandant de la police ville, le colonel Safari Kazingoufou. Le commissaire supérieur adjoint, lui, a tout mis sur le dos. Il a indiqué que le jour de la manifestation qui a débouché sur cet incendie, c'est bien lui qui commandait les éléments de la police. Cependant, à l'audience du mercredi, la cour militaire opérationnelle a présenté la déposition du colonel Safari Kazingoufou Jean-Félix par une commission rogatoire devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe sur toutes les préventions. Après avoir entendu les arguments des uns et des autres sur le contenu de la déposition, la cour a ordonné une descente sur terrain ce jeudi afin de s'imprégner des circonstances qui ont entouré la destruction et l'incendie de la mairie et des installations de la MONUSCO au quartier Boïkeni. André Kitenge, Beni, Radio Okapi.
Kasaï Oriental à présent, et plus précisément Mbujimayi, les retraités, licenciés, veuves et orphelins de la société minière de Bakwanga étaient hier jeudi au quatrième jour de leur sit-in à la division de l'administration et rémunération du personnel de cette entreprise. Ils réclament pour certains la paie de leur rente de survie et pour d'autres, ils réclament pour leur feu, mari et parents. Les responsables de la MIBA affirment être sensibles à ces mouvements sociaux et s'aiment de la FINA.
Ils sont plus de 100 personnes, enfants, jeunes et vieux, à avoir assiégé certains bureaux de la division de l'administration et rémunération du personnel où ils passent la nuit à la belle étoile et d'autres installés sous la véranda. Depuis leur arrivée lundi sur ce site où s'effectue la paye, le personnel MIBA qui travaille à la DARP ne fréquente plus ce bâtiment pour éviter le pire. Ces ex-contractants en colère réclament la paye de leur rente de survie sur les 5 millions remis pour la relance des activités minières par le gouvernement congolais. David Kalambayi, porte-parole du groupe.
L'argent, c'est pour tout le monde. Mais lui ne veut même pas nous recevoir pour parler. Il se méfie de tout le monde. Alors, on est là depuis lundi.
Du côté de la société minière, l'administrateur directeur général AI de la MIBA affirme que l'administration du personnel va statuer sur ce dossier. Paulin Lukusa.
Lorsqu'il faut revendiquer, il faut suivre la procédure. Nous avons le président de la délégation syndicale qu'ils auraient pu contacter. Il y a le chef de département des ressources humaines auquel ils auraient pu s'adresser. Alors, vous voyez comme ça, subitement, les gens viennent avec bagages, enfants, etc. On dit non, nous on reste là, il faut qu'on nous paye. Nous sommes très sensibles par rapport aux problèmes sociaux. Cependant, nous ne sommes pas saisis officiellement. Nous avons demandé aux responsables de l'administration du personnel de pouvoir regarder la situation.
Signalons que depuis la paye du personnel, cette entreprise minière enregistre plusieurs revendications dont certaines non fondées, déclarent les autorités de la MIBA. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
L'ultimatum de la décision du dernier Conseil des ministres a en principe expiré hier jeudi. Cette décision de fermer les ports privés érigés sur le littoral de l'ex-Onatra dans le Congo central. Le sujet était hier jeudi ici à Kinshasa au centre du rassemblement extraordinaire des agents et cadres de la Société commerciale de transport et ports SCPT-ESC. Ex-Onatra, occasion pour Ossassé Armand, délégué syndical de cette entreprise, de rappeler qu'avec l'exécution de cette décision, la STTP pourrait remonter ses recettes et renaître de ses cendres. Jean-Désiré Kanyama nous explique.
Devant des milliers de cadres agents, le délégué syndical a expliqué les raisons de la déliquescence de la SCTP.
Vous savez que l'ex-Onatra est à face de 9 ports et tous ces 9 ports fonctionnent dans l'illégalité.
Armand Ossassé dénonce une mission de deux membres du gouvernement qui retarde l'exécution de cette mesure pourtant salutaire pour la SCPT.
Au lieu de fermer les ports, les ministres sont allés vérifier les documents auprès des opérateurs des ports privés.
Faudra-t-il donc éviter ce manque à gagner à cette entreprise publique? La réponse est oui, dit Théo Kafissimputu, un autre membre du syndicat.
Lorsque nous avions le monopole, on réalisait 12, 13 et 14 millions de dollars par mois. Mais avec l'avènement de ces ports privés illégaux érigés sur notre littoral, nous réalisons donc la recette a sensiblement baissé.
D'autres actions concrètes sont déjà programmées au cas où la mesure n'est pas exécutée, dit encore le délégué syndical Armand Ossassé.
Nous allons saisir le chef de l'État et nous allons nous mobiliser avec un soutien à la cité de l'Union africaine.
Implantée dans 17 provinces, la SCPT compte aujourd'hui plus de 8000 agents actifs qui totalisent 32 mois d'arriérés de salaire, sans oublier les 13 000 retraités dits debout, dont la vie dépend également de la même entreprise publique.
Jean-Désiré Kanyama, merci. Nous retrouvons à présent Billy Yvan Lutumba pour parler de la protection de la biodiversité. Les espèces aquatiques du fleuve Congo subissent de sérieuses menaces toxiques de la part de certaines usines chinoises qui rejettent des eaux usées non décontaminées. Parmi les premières conséquences directes souvent décriées par les pêcheurs et riverains, c'est la mort des poissons, causant ainsi la raréfaction de cet aliment sur le marché. Le constat est fait mercredi par le ministre de l'Environnement et ses services lors de la visite de quelques usines, notamment la Bracongo, la Bralima et Orbite au quartier Kingabwa. Comme je disais, Billy Yvan Lutumba signe pour nous ce reportage.
L'usine existe depuis très longtemps, mais pourquoi depuis tout ce temps ils n'ont pas pensé à ça?
Madame, j'espère que mes services ont accès à vos installations.
Le font à tout moment.
Oui, dernièrement, on a fait des analyses. Qu'est-ce que vous donnez?
Il y a une pollution.
Oui. Kingabwa, alors que les machines de la Bracongo tournent à plein régime, à l'arrière de la concession, le long du fleuve, devant une évacuation non conçue des effluents de l'usine, la directrice de l'assainissement, aux côtés du ministre, discute avec les gestionnaires qui tempèrent car un projet environnemental est en vue.
Nous avons connu une étude d'impact environnemental qui nous a donné un moratoire pour la construction de l'usine. C'est ainsi que nous avons commandé des équipements personnels.
Plus loin vers 17e rue industrielle, Orbite est une usine de fabrication d'eau et aussi des cosmétiques.
Les eaux du couvent de l'usine sont de l'autre côté là-bas.
Elles sont traitées.
Donc c'est un traitement primaire.
C'est bien dit, le vrai traitement n'est pas fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne vais pas le dire. Il y a des imperfections qu'on pourra aménager pour atteindre le seuil acceptable.
Bralima est parmi les usines visitées. Une construction des recueillements des eaux de l'usine servant de pisciculture est présentée. C'est pour justifier la non-toxicité de leurs effluents pour la biodiversité. Toutefois, une contre-vérification est exigée.
Kim Plast, ce sont eux qui récupèrent le déchet en plastique.
Quelqu'un qui fabrique les plateaux qu'on utilise pour les œufs doit traiter les étiquettes usées de façon à les transformer. On pourra donner un contrat avec la Bralima.
Il revient de cette tournée que les effluents des usines sont bel et bien déversés dans le fleuve Congo, mais il reste à déterminer leur niveau de toxicité.
Désapprobation, regret et mise en garde, voilà qui résume la réaction du gouvernement, la réaction du ministre de l'Environnement et Développement Durable en rapport avec cette pollution. Claude Nyamugabo conseille tous ses investisseurs non en règle de se conformer aux prescrits des lois sur la protection de la biodiversité et de l'environnement de manière générale. Les récalcitrants, dit-il, se verront infliger des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de leurs usines.
Actualité internationale.
Ne vous laissez pas intimider. La jeunesse nigériane continuait jeudi hier de marcher contre les violences policières dans plusieurs grandes villes du pays, malgré un avertissement de l'armée et de nouveaux incidents. Ils étaient encore des milliers à Lagos, tentaculaire ville de 20 millions d'habitants, à marcher, chanter et danser dans différents quartiers, bloquant ainsi les principaux axes de circulation. Une vingtaine de personnes ont été tuées mercredi au cours d'attaques terroristes dans 3 localités de la province de Séno, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement burkinabé Rémi Fulgence Dandjinou. Les groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demniol, Bombofa et Pétegursé, commune de Gorgadji. Le bilan provisoire de ces attaques perpétrées dans les marchés et villages fait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et de personnes portées disparues, a déclaré Dandjinou dans un communiqué.
L'invité
de ce journal est le président de la société civile de la chefferie de Watalinga, territoire de Beni, dans le Nord Kivu. David Mouazé parle de la situation sécuritaire dans cette région qui connaît une petite accalmie malgré quelques incidents isolés signalés ça et là. Il fait également un plaidoyer pour le renforcement des patrouilles des forces de sécurité dans la région. David Mouazé répond aux questions de Marc Marofimbo.
Monsieur le Président David Moise, comment se présente la situation sécuritaire présentement dans votre entité?
Généralement, la situation est relativement calme, sauf imprévu, parce que nous venons de réaliser au moins 5 mois sans qu'on assiste à des incursions ou à des violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes en train de remercier d'abord nos forces et tout le partenaire du gouvernement de la RDC suite à cet effort-là qu'ils sont en train de fournir pour que nous puissions quand même avoir la petite accalmie que nous sommes en train de vivre pour le moment.
Comment se passe la fréquentation de retourner, que ce soit sur les plans sanitaires, même sur les plans sécuritaires? Comment vous vivez avec eux ici?
Oui, présentement, comme nous sommes à Kamango, il y a quand même un retour progressif de la population, parce que vous voyez aujourd'hui, les structures sanitaires commencent à avoir quand même des activités. Il y a même des structures scolaires qui ont commencé ici à Kamango. C'est pourquoi nous sommes entrés de remercier nos forces, c'est-à-dire les FRDC, la police et la MONUSCO qui est présentement à Kamango, mais aussi la population, parce que le mariage là civilo-militaire, nous le voyons quand même, évolue très bien. C'est pour cela que nous sommes en train de mener des plaidoyers et nous sommes en train d'alerter les différents partenaires de pouvoir nous venir en assistance, parce que dans la zone de retour, il y a beaucoup de besoins qui se présentent. Un, d'abord, quant à retourner, vous savez, les maisons sont détruites. Il y a aussi les structures sanitaires qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin beaucoup d'assistance, ou beaucoup de besoins qui se font sentir dans la zone de retour.
Les grandes difficultés auxquelles les retournés font face ici sont lesquelles, par exemple?
Il y a d'abord le besoin dans la santé, comme je l'ai dit. Vous savez que nous avons d'abord l'hôpital général de référence de Kamango qui est là. Aujourd'hui, ça nécessite d'abord leur réinstallation. Nous avons au moins 3 aires de santé qui regorgent l'agglomération de Kamango, notamment le centre de santé Kamango, nous avons le centre de santé Moussali ainsi que Kitimba. Et dans la santé, nous avons des énormes besoins en médicaments et même dans la construction, parce qu'il y a certains bâtiments qui nécessitent une réflexion. Et aussi, dans la zone de retour, la population qui a besoin d'une assistance, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin des abris. Et aussi, la plus grande préoccupation, c'est d'abord la sécurisation de Kamango et ses environs, parce que aujourd'hui, comme nous vivons une accalmie, nous ne savons pas où se trouve aujourd'hui l'ennemi, parce que depuis que nous avons connu cette situation macabre, nous n'avons jamais assisté à des opérations. Là, je le dis sincèrement, c'est-à-dire les FRDC, même s'ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts, nous les appelons encore à des patrouilles pour que nous puissions nous rassurer du retour de la paix complètement dans la zone.
Monsieur David Moise, vous êtes le président de la société civile le noyau de la chefferie de Watalinga. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Et David Moise, président de la société civile de Watalinga, dans le territoire de Beni, répondait aux questions de Marc Marofimbo. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Radio Capi. Mais l'info continue sur www.radiocapi.net.